Tropic FM.
Bonjour, le magazine sur Tropic FM. Aujourd'hui, je reçois la liste de Lutte ouvrière. Faire entendre le camp des travailleurs pour à Bourg-en-Bresse. Donc, ça sera le 23 et le 30 mars prochain. En face de moi, Maud Lépagnot, qui est tête de liste à Bourg-en-Bresse, et Éric Lailly, qui est militant de Lutte ouvrière. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc, 5 listes à Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, Breton, le Front National, à gauche vraiment, et Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Alors, Maud, présentez-vous aux électeurs burgiens. Qui êtes-vous ?
Oui, donc je suis Maud Lépagnot, je suis enseignante au collège Thomas Ribou. J'ai 34 ans et voilà, je milite à Lutte ouvrière depuis l'âge de 17 ans et je conduirai donc la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, bah justement pour que les travailleurs puissent exprimer leur politique, une politique qui les représente dans ces élections.
Éric Lailly, donc vous n'êtes pas sur la liste de Lutte ouvrière à Bourg, vous la soutenez, vous militez à Bourg-en-Bresse depuis des années.
Absolument, oui, je suis pas sur la liste parce que je suis pas résident à Bourg-en-Bresse, ouais. Mais avec les militants locaux, nous avons contribué à monter cette liste pour que, effectivement, pour la première fois, il y ait une liste Lutte ouvrière aux élections municipales à Bourg, ce qui représente quand même quelque chose.
Voilà, alors première fois qu'il y a une liste Lutte ouvrière à Bourg, Maud, comment on décide de faire une liste à Bourg-en-Bresse? Vous avez dit, en France, toutes les villes de plus de 39 000 habitants, elles doivent avoir une liste Lutte ouvrière, ou comment ça se passe?
Bah effectivement, on avait le souhait de faire un maximum de listes, de faire entendre notre programme, nos idées dans un maximum de communes possibles, hein, toucher le maximum de travailleurs possibles. Donc oui, c'était une décision à l'échelle nationale de faire le plus de listes possible. Et il se trouve que là, on a pu la faire. Et je dirais qu'on a été aidé en ça par la politique désastreuse de Hollande au gouvernement, hein, qui a vraiment attiré la colère des travailleurs. Et c'est vrai que donc quand on a dit aux gens que nous, on se présentait pour infliger un désaveu à sa politique, eh bien on a rencontré, on a trouvé l'oreille des gens, leur intérêt, et on a pu monter cette liste aussi sur ce sentiment de rejet de la politique de Hollande en faveur des patrons avec rien pour les travailleurs, et aussi sur la base d'une opposition ferme à la droite et a fortiori à l'extrême droite.
Éric Lailly, est-ce que vous avez un regard sur ce qui se passe en France, alors que, bien sûr, on n'a pas encore atteint la date limite de dépôt des candidatures qui a lieu, je crois, le 6, là, cette semaine? Mais comment ça se présente? Il y aura de nombreuses listes en France?
Oui, alors on est à quelques jours du dépôt, de la fin du dépôt, et effectivement on va dépasser les 200 listes dans tout le pays. 200 listes, c'est 50 de plus que la fois précédente, c'est quelque chose d'important, et c'est essentiellement dans des grandes villes, hein, de plus de 15 ou 20 000 habitants, et puis ça représente 8500 candidats dans tout le pays qui se sont portés publiquement sur les listes de Lutte ouvrière.
Oui, donc Maud, vous l'avez expliqué, sans doute que le contexte national, c'est-à-dire que la critique qui vient un petit peu de tous les bords du gouvernement socialiste a mobilisé les gens pour aller au-devant des électeurs sur cette idée qu'une autre politique devrait être mise en œuvre.
En tout cas, ce que les gens constatent, c'est que Hollande, c'est Sarkozy, dans la continuité de Sarkozy, c'est des cadeaux au patron. Là, le 1er janvier, en janvier, il vient d'annoncer un pacte de responsabilité, c'est un nouveau cadeau à 30 milliards d'euros. Donc évidemment, il y a un dégoût, un écœurement par rapport à la politique qui est menée par ce gouvernement depuis presque 2 ans. Et c'est bien évident que, comme l'a dit Maud, une grande partie de nos colistiers, c'est pour infliger un désaveu à ce gouvernement. Alors, une autre politique possible, en tout cas, nous on pense que les gouvernements se succèdent et ils restent les uns et les autres au service des patrons. C'est le MEDEF qui dirige réellement dans ce pays.
Alors, comment est-ce qu'on constitue une liste, Maud, sur Bourg-en-Bresse? Parce que, bon, c'est peut-être pas forcément évident d'aller trouver 39 candidats. Comment on s'y prend?
Bah déjà, on a fait appel à nos sympathisants, hein, pour commencer, voilà. Et puis, nous, on est présents toute l'année, hein, on est sur les marchés très régulièrement, en centre-ville. On va faire des diffusions de tracts auprès d'usines comme Renault Trucks, comme ArcelorMittal. Donc, il y a des gens qu'on est allés trouver, qui commencent à nous connaître, qui savent qui on est, ce qu'on défend. Et à qui ça plaît, voilà. L'idée que les travailleurs doivent relever la tête, qu'il faut une opposition ouvrière au gouvernement, c'est un message qu'on essaie de faire passer toute l'année dans nos activités militantes. Et grâce à ça, bah, quand on allait trouver les gens dans les quartiers pour leur parler de notre liste et leur demander d'en être, eh ben, on a pu trouver des gens qui nous connaissaient déjà un peu et qui du coup ont eu envie de participer, ont eu envie de contribuer à ce que notre camp puisse être représenté justement dans ces élections.
Donc la concrétisation de la réputation que vous avez d'être proche du monde ouvrier et d'être en relation avec les travailleurs.
Oui, parce qu'on s'adresse pas à eux que dans les élections. Voilà, on n'est pas présent que dans les élections, que au moment des échéances électorales. On tient à être présent tout le temps parce que ce qu'on pense quand même fondamentalement, c'est que le changement il viendra des luttes des travailleurs. Voilà, et nous ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est des objectifs pour ces luttes. Voilà. Donc, bien sûr, c'est important pour nous que les gens votent lutte ouvrière pour faire entendre ce camp, pour montrer qu'il y a une opposition ouvrière qui existe dans ce pays. Et en même temps, on pense que notre sort dépendra des luttes à venir et pas des résultats des élections en eux-mêmes, quoi.
Oui, parce que le 23 et le 30, bon, bah, c'est un épisode, mais bon, c'est toute l'année qu'il faut se battre. Mmh. Ouais. Éric Lailly, on est sur une élection locale. On peut peut-être vous critiquer en disant vous voulez faire d'une élection locale un test national, encore que vous n'êtes pas les seuls. Quel lien vous feriez, vous, entre le national et le local? Parce que finalement, peut-être que tout est lié.
Bien sûr que tout est lié. D'abord, cette élection, c'est la première élection depuis que Hollande a été élu.
En effet.
Donc, ça va être pour tout le monde un référendum pour ou contre la politique de Hollande. Alors, les problèmes locaux, on peut pas les résoudre et on peut pas les déconnecter des problèmes nationaux. Aujourd'hui, ce qui préoccupe tous les colistiers, tous les travailleurs, toute la population qui vit de son travail à Bourg comme partout, c'est l'emploi. C'est les annonces quasiment quotidiennes de suppression d'emplois, de fermeture d'entreprises ou de plans sociaux. C'est le salaire qui ne permet pas de faire face aux besoins élémentaires. C'est les prix qui flambent, la TVA qui a augmenté. Bon, donc tous les problèmes discutés, les rénovations de centre-ville, ça paraît bien dérisoire quand la préoccupation des gens, c'est comment ils vont finir le mois. Donc ces problèmes-là, c'est pas à l'échelle locale que ça peut se résoudre. C'est évidemment à une échelle plus globale. Le problème fondamental aujourd'hui, c'est de changer le rapport de force qu'il y a entre le monde du travail et puis les patrons et puis les grands actionnaires qui sont responsables de cette situation. Et en réalité, les gouvernements, ils vont au devant des desiderata de ces grands patrons. Alors, on peut quand même ajouter, pour finir là-dessus, que les principaux, ceux qui conduisent les listes du Parti Socialiste et de l'UMP, ils sont entièrement solidaires de cette politique, ils s'en démarquent pas, ils la soutiennent, ils en sont les porte-paroles locaux et régionaux, nationaux, parce que certains sont députés, d'autres vice-présidents du conseil régional, etc.
Malgré tout, Maud, est-ce que dans votre campagne, vous allez parler, du logement, de la fiscalité, des choses qui à la fois donc se traitent au niveau local et au niveau national, c'est-à-dire les préoccupations, et puis aussi le pouvoir d'achat, la lutte contre les inégalités, qui peuvent aussi trouver des solutions localement. Par exemple, par une politique sociale d'une municipalité qui soit plus engagée.
Oui, écoutez, sur la fiscalité, effectivement, le local rejoint le national. Hein, on est dans une situation où les impôts ont augmenté, y compris il y a des ménages modestes qui payent des impôts pour la première fois, des retraités aussi, voilà. Ça c'est la politique de Hollande pour pouvoir financer tous les cadeaux qu'il fait au patronat, à commencer par le par le pacte de responsabilité récent, enfin je dirais même à commencer non, par le CICE déjà de 20 milliards, un cadeau de 20 milliards, là maintenant le pacte de responsabilité, un cadeau de 30 milliards au patronat, et bien tout ça effectivement c'est financé par des hausses d'impôts directs et indirects, locaux ou pas d'ailleurs, la TVA, voilà, qui pèse, qui est l'impôt le plus injuste, qui pèse le plus sur les ménages populaires, l'augmentation des impôts en général, et puis avec la dotation, avec la baisse pardon des dotations aux communes et à toutes les collectivités territoriales, et eh ben ça veut dire aussi une augmentation des impôts locaux, voilà. Donc là, on voit bien aussi le lien entre le local et le national. Hein. Les communes ne décident pas des dotations qu'elles reçoivent. Elles sont tributaires pour ça des décisions gouvernementales. Et donc, voilà, là encore, l'impact local qu'on peut avoir, il est quand même assez limité. C'est la politique du gouvernement qu'il faut qu'on remette en question sérieusement, là.
Bon, j'imagine que bon, les discussions sur le carré Amyot, c'est pas des choses qui vont bien vous passionner.
Bah, elles ne nous passionnent pas, et surtout, c'est pas le problème fondamental des travailleurs
voilà,
aujourd'hui.
C'est ce que disait Eric Lahy tout à l'heure, voilà. c'est la préoccupation des Burgiens, c'est pas le carré Amyot.
Et je vous confirme que personne, dans tous les gens qu'on a rencontrés et dans tous les gens qu'on rencontre régulièrement encore maintenant dans cette campagne, personne ne s'inquiète de l'avenir du carré Amyot. Alors vraiment pas. Le problème, c'est vraiment l'emploi, c'est le chômage et le licenciement. Renault Trucks qui annonce à l'échelle du groupe, Volvo qui annonce à l'échelle du groupe plus de 4000 suppressions d'emplois. Bourg-en-Bresse sera touché probablement comme d'autres. Voilà, ça inquiète les gens. Hein. Le carré Amyot, non, absolument pas.
Alors, un sujet qui peut être aussi local et national, Eric Lahy, c'est la question du logement. Alors, il y a un cas bien particulier à Bourg-en-Bresse qui est les demandeurs d'asile. Bon, qui sont cachés à Sénor dans un local de l'ADAPI. Il y a un problème en France de logement à Bourg. Les locaux, là, ils pourraient peut-être faire quelque chose aussi.
Ah ben absolument. Dans ce pays, il manque 1 million de logements décents, corrects pour loger tout le monde. Alors, il y a toute une série d'endroits des logements vides. Évidemment qu'il faudrait imposer la réquisition de tous les logements vides, et puis il faudrait construire massivement des logements. Alors le faire sans faire appel à des promoteurs privés et donc arroser de subventions les bétonneurs comme un certain nombre de programmes le prévoient. Hein, c'est quand même ahurissant que dans un des pays qui reste quand même les plus riches de la planète, il y ait des centaines de milliers de personnes qui soient à la rue, des millions de personnes qui soient mal logées. Alors les demandeurs d'asile, c'est au total dans ce pays quelques dizaines de milliers de personnes. C'est dérisoire. Hein. Alors évidemment, il y a les moyens de les loger. D'une part, en commençant par réquisitionner tous les logements, par imposer à tous les propriétaires, les compagnies d'assurance, les régies diverses et variées qui refusent de louer, de le faire. Et puis s'ils le font pas, de l'imposer. Et puis en construisant des logements nouveaux.
Alors, Maud, le local, il est intéressant, la communauté de communes. Maintenant, puisque la communauté de communes, c'est le prolongement des communes, on va les élire en même temps. C'est important pour les services publics. Voilà. Alors, par exemple, service public, eh bien, c'est le social, mais c'est aussi le transport, c'est la régie des eaux, c'est les ordures ménagères. Alors, quelle est votre idée sur les services publics ? Alors, les services publics, c'est aussi un moyen de compenser les inégalités, parce que les services publics sont faits pour tout le monde, y compris les pauvres.
Oui, bah justement, les services publics qui souffrent beaucoup depuis ces dernières années, hein, voilà, et ça s'aggrave avec la crise. Là encore, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec le national. Encore une fois, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein, et l'argent, plus on en donne aux patrons, et moins il y en a pour les services publics qui, effectivement, bénéficient aux classes populaires. Donc oui, il faut des services publics de qualité, hein, bien sûr. Pour ça, il faut des agents, il faut de l'argent, il faut voilà. Il y a des suppressions de postes. Il y a eu des suppressions de postes au niveau de la commune. Hein. C'est dans le tract 26 suppressions de postes d'agents municipaux, voilà, bon, annoncé dans un tract. Les autres candidats donc dans ces élections annoncent aussi une réduction des effectifs du personnel municipal hein, pour financer leur programme.
Donc pour vous, réduire le personnel municipal, le risque, c'est de baisser la qualité des services publics.
Bah déjà, c'est pas une bonne nouvelle pour les agents eux-mêmes, hein, pour commencer, parce que bon, on est quand même dans une période de chômage, c'est peut-être pas une très bonne idée de supprimer des emplois. Et puis évidemment que moins il y a d'agents, moins le service peut être rendu, ou alors en aggravant les conditions de travail. Mmh. Voilà.
Moi, je voudrais ajouter quelque chose là-dessus, parce que vous savez, les services publics, discuter des services publics sans discuter du financement, sans discuter de qui paye des impôts et qui, au contraire, est exonéré d'impôts, ça n'a pas de sens. Et ce qui est important quand même de rappeler, c'est que chaque année dans ce pays, il y a autour de 200 milliards d'euros d'exonération fiscale, d'exonération de cotisations patronales qui sont un véritable cadeau aux entreprises et aux grandes entreprises. Hein, ça représente la moitié du budget de l'État. Alors, quand Hollande dit « je fais un cadeau à 30 milliards au patronat au prétexte de les aider à créer des emplois qu'ils ne créeront pas », eh bien, c'est autant d'argent qui, mécaniquement, va manquer dans les écoles, dans les hôpitaux. Alors, bien sûr, quand on voit que le maire sortant se félicite d'avoir supprimé 26 emplois pour assainir les comptes de la municipalité, c'est choquant et ça a choqué des gens. Alors, la seule et unique façon d'avoir des services publics de qualité, ce serait d'imposer qu'on taxe les revenus du capital, qu'on taxe les grandes fortunes, qu'on taxe le patronat sous des formes diverses et variées. Et c'est exactement l'inverse qu'on fait.
Oui, quand vous parlez de cadeaux aux entreprises, d'ailleurs c'est plutôt aux grosses entreprises plutôt qu'aux PME ou aux toutes petites entreprises qui constituent le tissu économique local. Oui. Alors par exemple, sur la politique des transports, restons deux minutes là sur les services publics. Les transports à Bourg-en-Bresse, qu'est-ce que vous en pensez, Maud?
Oui, bah écoutez, effectivement, enfin, moi je pense aussi que les transports, ce serait bien qu'ils soient gratuits. Hein. Maintenant, on revient toujours au même problème. Comment rendre le transport gratuit sans augmenter les impôts locaux dans cette période où les dotations baissent chaque année? Moi je vois pas bien. Donc encore une fois, c'est la politique nationale là, qui est en cause, vraiment toujours moins d'argent pour les communes, toujours moins d'argent pour les travailleurs, toujours moins d'argent pour les services publics. Et donc à ce titre-là, on peut faire des vœux pieux de dire qu'il faudrait rendre ceci, cela gratuit, et effectivement, mais maintenant la question c'est comment, avec quel argent, voilà. Mmh.
Alors, je voudrais aborder maintenant le sujet de la communauté de communes. Bon, il y a beaucoup de critiques sur la communauté de communes parce que on croit que c'est la commune qui mène les actions de service public, puis en fait c'est la communauté de communes. Bon, pour moi c'est la même chose. Qu'est-ce que vous pensez, Eric, de cette complémentarité ou concurrence entre communes et communauté de communes?
Vous savez, le véritable problème n'est pas tellement de savoir quelle collectivité a les compétences. Mais qui les finance et quels sont les budgets et quels sont les services rendus? C'est ça le véritable problème. Alors là encore, vous savez, ça occupe beaucoup un certain nombre de politiciens, de notables, toutes ces histoires de réorganisation des structures de l'État. Mais je voudrais quand même revenir au fait que pour les travailleurs aujourd'hui, pour les gens qui vont voter le 23 mars, c'est quand même à des années-lumière de leurs préoccupations. Nous, on a envie de faire entendre dans cette campagne quand même un certain nombre de mesures fondamentales que le monde du travail devrait imposer. L'interdiction des licenciements, l'alignement des salaires et des pensions sur la hausse des prix. Alors oui, c'est loin de ces préoccupations de communauté de communes. C'est pas que nous voulons zapper cette question, mais c'est que discuter de ça dans une période de crise grave, discuter de ça dans une période où des millions de personnes sont inquiètes, mais réellement de leur sort dans les mois qui suivent, dans les semaines qui suivent, c'est dérisoire.
Votre présence dans une campagne municipale comme à Bourg-en-Bresse, Maud, l'objectif, c'est que le 23 et le 30, ce ne soit pas une fin en soi, mais que d'essayer de mobiliser la population, les travailleurs, pour qu'il y ait une contestation nationale de ces phénomènes. Quoi. Hein, c'est bien le sens de votre présence.
Oui, écoutez, tous les politiciens nous répètent là que c'est des élections locales, qu'il faut absolument se prononcer sur des problèmes strictement locaux.
Oui, on n'est pas obligé de les croire.
Voilà, exactement. Mais exactement, et c'est vraiment le sens de ce qu'on essaie de dire aux gens. Quand ils nous disent, votez pour la personne, votez pour un projet, votez pour ou contre la création d'un musée de la Bresse dans le carré Amyot. Voilà, quand ils nous disent que les enjeux sont strictement locaux, eh ben c'est un mensonge. Mmh. Parce que les partis ne se gêneront pas pour tirer des conclusions nationales, des conclusions politiques au lendemain des élections. Toutes les voix qui se seront portées sur les candidats du PS, eh ben ce sera, ils l'interpréteront et ils le présenteront comme ça, comme une approbation de la politique du gouvernement, comme le fait que les travailleurs ils sont d'accord avec les coûts qu'ils ont reçus, ils sont d'accord pour continuer à recevoir. Toutes les voix qui se porteront sur le candidat de l'UMP, ce sera compris comme on veut un retour à Sarkozy. Les voix qui se porteront sur le FN, ce sera interprété comme les travailleurs veulent que les coûts ils pleuvent, mais encore plus fort. Voilà. Donc quand ils nous disent que c'est des élections, que l'enjeu de ces élections il est strictement local, c'est faux. L'enjeu il est national. C'est le moment pour les travailleurs de faire entendre leur voix, de faire entendre la voix de leur camp, voilà. Et c'est urgent, c'est important qu'ils le fassent, et c'est bien plus important, effectivement, que de discuter de l'avenir du carré Amyot. Voilà.
Éric ?
Oui, tout à fait. Moi, je voudrais ajouter aussi que le programme qu'on met en avant dans ces élections municipales, il vise à préparer l'avenir. Le sort du monde du travail, il ne changera pas avec un bulletin de vote, il changera avec des luttes, il changera avec un rapport de force, et quand la colère va se... ne sera plus rentrée, ne sera plus déçue et démoralisée comme elle est aujourd'hui, mais qu'elle s'exprimera, ce qui est une évidence pour l'avenir, il faut que les travailleurs aient un objectif. Or, dans ce pays, il y a une multitude de partis qui, chacun avec leur petite musique, défendent ce système capitaliste, le droit des patrons à ponctionner tout l'argent qui est produit dans la société, et il n'y en a aucun qui défend les intérêts des travailleurs. Et un des objectifs de ces élections... et des suivantes, parce qu'il y a les élections européennes ensuite, et c'est de qu'émerge justement un parti, des hommes et des femmes qui veulent mettre en avant les intérêts vitaux du monde du travail. Et ça, les équipes se succèdent au gouvernement, un gouvernement déçoit et fait faillite, il est remplacé par un autre qui se fait élire avec un langage différent, et puis qui, au bout du compte, mène la même politique. Eh bien, il y en a assez que, élection après élection, on se fasse rouler dans la farine par des dirigeants politiques qui sont, au fond, que des serviteurs de Madame Bettencourt, de Dassault, de Bouygues et de gens comme ça. Et c'est ça qu'on veut faire entendre dans ces élections. On veut faire émerger un parti qui défend les intérêts des travailleurs.
Maud, est-ce qu'il faudrait changer la démocratie, parce que on le voit, on élit des gens pour 5 ans, pour 6 ans, et il se passe pas grand-chose, à part bien sûr les luttes entre-temps, mais je veux dire que le peuple, il est comme dessaisi pendant ses mandats de donner son avis.
Oui, alors déjà, la démocratie, c'est un bien grand mot pour décrire ce qu'on vit, puisque, comme l'a dit Eric à l'instant, c'est les patrons qui décident de tout en réalité, c'est les grands patrons qui font leur politique.
Oui, mais ça vous fait allusion.
C'est eux qu'il faut contrôler.
Ça vous fait, vous faites allusion au fait que le monde politique, le monde économique et le monde des médias, en fait, ce sont les mêmes.
Disons que le pouvoir économique, il est entièrement aux mains du grand patronat qui fait la pluie et le beau temps sur l'économie, qui peut décider du jour au lendemain de mettre des centaines de familles sur la paille en fermant une grande entreprise. Je sais pas, je prends l'exemple de PSA Aulnay, par exemple, qui ferme la famille Peugeot, qui ferme PSA alors qu'ils font des profits, alors qu'ils ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. C'est ça la démocratie. Moi, je pense que le premier des droits, c'est le droit à un travail. Voilà, les gens ils peuvent pas vivre sans un travail. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à changer, et c'est pas pour rien que qu'on est communiste révolutionnaire, on pense qu'il y a beaucoup de choses à changer, et y compris la démocratie, déjà la première chose pour parler de ce que vous dites là, les mandats qui succèdent et puis finalement ils font ce qu'ils veulent au pouvoir, bah, la révocabilité des élus tout simplement, hein, déjà, serait une chose qu'on pourrait mettre en avant.
Mais par exemple, est-ce que ça vous intéresserait d'être minoritaire dans un conseil municipal, dans une assemblée nationale? Est-ce que, par exemple, à une époque, on avait la proportionnelle pour élire les députés. Est-ce que c'est quelque chose qui éventuellement vous intéresserait, ça, c'est de façon à faire entendre votre voix au sein d'une assemblée, sans pour autant en avoir le pouvoir, quoi.
Mais on a déjà eu des élus dans certaines assemblées, hein, et puis y compris dans les conseils municipaux. Voilà, donc évidemment qu'on peut tout à fait y participer, ne serait-ce que pour voir ce qui se trame, voilà,
en direction,
être informé, relayer l'information,
les citoyens de l'information,
tout à fait, bien sûr. Voilà. Et puis c'est aussi une tribune pour exprimer ce qu'on a à dire, voilà, au moins faire entendre. Même à toute petite échelle, la voix des travailleurs à ce niveau-là. Donc effectivement, et la proportionnelle, bah oui, bien sûr que j'y suis favorable.
Mais maintenant, ça c'est une évidence. Mais le véritable contrôle qu'il faudrait imposer, c'est pas seulement au sein des institutions de l'État ou des collectivités. Nous, on revendique un contrôle sur les comptes des entreprises. On revendique un contrôle sur les décisions des actionnaires. Parce que en réalité, on vote pour des institutions qui, au fond, ont un pouvoir extrêmement réduit et limité. Mais les seules institutions, les seules qui prennent les décisions, qui ont un pouvoir considérable, là, on vote pas, on n'a aucun moyen. C'est une véritable dictature. Hein. Quand le groupe Renault Trucks décide à l'échelle du groupe de supprimer 4000 emplois, il n'y a pas de vote. Quand le conseil d'administration de Peugeot décide de supprimer 11000 emplois en 2013 dans le groupe, il n'y a pas de vote. Hein, quand Maurice Ducrot, le groupe, l'actionnaire principal met en faillite Maurice Ducrot, et reprend le même groupe en supprimant 3000 emplois, il n'y a pas de vote. Hein. Et en plus, il touche des subventions du gouvernement pour faire cette opération. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut un contrôle sur les comptes, un contrôle sur la marge des entreprises qui s'exerce par les travailleurs, par en bas. Et c'est ce véritable contrôle qui aurait du sens.
Le droit des comités d'entreprise, il a un peu évolué, mais bon, ils sont informés des situations, mais ils n'ont pas de véritable pouvoir de décision, hein, je crois.
Absolument. C'est que la surface des choses. Vous savez, les salariés qui sont au service comptable, les salariés qui sont au service des achats, les travailleurs qui déchargent les camions, etc., ils voient passer des tas de choses, ils voient passer des factures, ils voient passer... s'ils avaient la possibilité de mettre tout ça en commun et de le rendre public, il y a toute une série de prétendues faillites, de prétendues difficultés d'entreprise qui s'avéreraient être du pipeau. Et ça permettrait que les travailleurs ils puissent savoir la réalité des choses et intervenir bien en amont. Alors régulièrement, on nous amuse avec des droits, une extension de droits, etc. au niveau des comités d'entreprise, tout ça. Mais tout ça, c'est pas la réalité des comptes. C'est uniquement ce qu'ils veulent bien montrer. Donc nous, ce qu'on discute là, c'est accéder directement aux véritables décisions et pouvoir les rendre publiques. Ça veut dire, d'une façon ou d'une autre, contester aux actionnaires, et notamment des grandes sociétés, eh bien leur droit à diriger en dictature absolue. Alors, ça concerne non seulement les salariés des entreprises, mais vous savez, quand une entreprise comme Maurice Ducrot supprime 3000 emplois, ferme des dépôts un petit peu partout dans le pays, c'est autant de sous-traitants, c'est autant de petits artisans, de fournisseurs qui vont y laisser leur peau au passage. Donc ça n'intéresse pas seulement les salariés et les travailleurs, mais y compris les tout petites entreprises qui dépendent de ces grands groupes.
Maude, vous êtes enseignante. Qu'est-ce que vous pensez de la politique nationale en matière d'enseignement? Est-ce qu'on a fait un progrès sur l'égalité des chances? Qu'est-ce que dans le domaine donc éducation, culture, où est-ce qu'on en est?
Non, bah écoutez, on manque cruellement de moyens dans l'éducation nationale. La rentrée 2014 ne s'annonce pas meilleure que les précédentes. Les dotations sont en baisse quasiment constante. Alors que les difficultés sont accrues, on manque vraiment de personnel. On a des classes à 28, 29, quand c'est pas 30, enfin je parle des collèges, hein, je parle même pas des lycées, quand c'est pas 30 dans certains établissements de l'Ain. Il faudrait une politique d'embauche massive dans tous les services publics et y compris dans l'éducation nationale pour éviter l'échec scolaire, pour y compris voilà dans les quartiers défavorisés où là il faudrait vraiment mettre le paquet pour dès la maternelle pour offrir une chance aux enfants voilà de pouvoir apprendre. Voilà, quand ils sont noyés dans des classes de 30 en maternelle, c'est un scandale. Et le gouvernement ne se donne pas du tout les moyens de l'éducation, d'offrir une égalité des chances aux nouvelles générations. Ça, c'est faux. Hein, on subit de plein fouet les économies budgétaires, la politique d'économie, de restriction budgétaire, avec les années de Sarkozy. Et c'est pas en train de s'arranger particulièrement.
Oui, alors en plus, Hollande avait fait toute sa campagne en disant que, en gros, il allait serrer la ceinture à tout le monde, sauf à l'éducation nationale, sauf à l'école. Bah, on voit que tout ça, c'était du pipeau. C'était un programme pour se faire élire. Et puis la réalité, c'est qu'il continue de faire des coupes sombres dans tous les services publics les plus utiles à la population. Parce que faut arrêter de nous rabâcher que y a pas le choix, que les caisses sont vides, que on est obligé absolument de faire des sacrifices partout. C'est un énorme mensonge. Il y a jamais eu autant d'argent dans la société. Les profits du CAC 40 explosent année après année. L'an dernier, les 500 premières fortunes de France, elles ont augmenté de 25%. Alors de l'argent, il y en a plein. Le problème, c'est un choix de classe de ne pas y toucher. Aujourd'hui, le drame, la réalité de la situation, c'est que les principaux actionnaires qui dirigent l'économie ne veulent plus se donner la peine d'investir. Ils veulent que l'argent, les bénéfices tombent directement par la spéculation, par le biais de la dette de l'État, sans investir. Et il a en face de lui des dirigeants politiques qui vident les poches de la population pour remplir les coffres des entreprises. Et en sacrifiant l'école, en sacrifiant les hôpitaux, et régulièrement il y a des drames dans les hôpitaux qui montrent que les services d'urgence sont saturés, qu'il manque du personnel, que c'est le flux tendu partout. Alors cette politique-là, il faut y mettre un terme.
Alors, votre job, c'est lutte contre licenciement, le pouvoir d'achat, etc. Mais moi, je vais revenir sur le collège Amiot par un biais détourné, qui est l'accès à la culture. Alors, grosse discussion entre les listes de bourgs pour savoir où on va mettre le conservatoire de musique, mais j'ai rien entendu sur la politique du conservatoire de musique pour que rendre l'accès possible aux couches populaires, à l'accès à la musique, l'accès à la culture, l'accès aux clubs sportifs. Voilà un sujet, Maude.
Oui, moi je suis tout à fait favorable effectivement à ce que la culture soit accessible au plus grand nombre. Hein. Alors pour ce qui concerne la musique, le conservatoire, je sais que c'est cher, mais honnêtement, j'ai pas une réponse là à vous.
Mais je pense que les freins sont à la fois économiques, parce que ça coûte quand même, et puis ils sont aussi sociologiques, c'est-à-dire que il faudrait que la musique aille dans les quartiers, se fasse connaître, parce que c'est un petit peu vu comme une forteresse.
Oui, après il y a sûrement des tas de choses à faire à ce niveau-là. Hein. Sur les associations à Bourg, il y en a un certain nombre qui sont dynamiques, qu'offrent quand même pas mal de possibilités aux jeunes de découvrir un certain nombre de sports, d'activités. Et moi, j'ai plutôt envie de dire que ça montre bien qu'il y a quand même des gens qui ont envie justement de faire connaître la culture, de faire connaître le sport. Il y a un certain nombre d'actions qui sont faites. Alors il y a sûrement d'autres efforts à faire, mais moi je suis pas là pour donner des conseils spécialement aux dirigeants des conservatoires. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui font le travail et qui essayent de rendre la culture accessible à leur niveau, au niveau associatif. J'ai pas grand chose à développer à ce niveau-là. Je sais pas si Eric, t'as...
Mais c'est des sujets qui sont importants et qu'on ne méprise pas. C'est une évidence qu'il faudrait que l'accès à toutes les formes de culture soit bien plus grand pour le plus grand nombre. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que dans plein de familles, on en est à arbitrer entre mettre de l'essence dans la voiture pour aller travailler, payer telle ou telle chose et faire face aux besoins vitaux.
Donc on est loin de ces préoccupations culturelles.
C'est dramatique qu'on en soit loin. Alors, ceci étant, il y a des différences d'une commune à l'autre dans la possibilité de mettre à la portée du plus grand nombre les choses. Tant mieux, je suis pas... Bon, à Bourg-en-Bresse, c'est pas forcément la pire qui soit de ce point de vue-là. Mais le véritable problème, c'est que tout ça... Aujourd'hui, il y a une situation d'urgence. Il y a une situation d'urgence sociale, d'urgence économique, bon, qui rendent ces problèmes-là... qui font passer ces problèmes-là au second plan par rapport aux préoccupations de la majorité de la population.
Voilà, et comme les dirigeants de Bourg-en-Bresse sont les mêmes que ceux de Paris, eh bien... Il pourrait donner un petit coup de pouce pour que ça change.
Alors, juste au passage, quand même, vous savez, on assiste aujourd'hui à une régression dans la société sur plein de sujets. Et même les pas qui ont pu être faits à une époque de permettre l'accès de toute une série de choses à la culture, l'éducation, etc., à une plus grande partie de la population, aujourd'hui, on revient en arrière. Parce que le fait qu'il y ait une espèce de guerre qui soit menée par les plus riches, par les grands patrons, par les capitalistes, pour capter toutes les richesses qui existent dans la société, ça fait qu'il y en a réellement de moins en moins pour tout le reste. Et ça se traduit réellement par un recul. Alors, il y a un recul au niveau des idées, il y a une résurgence d'idées réactionnaires qui montent un peu partout dans la société, mais même sur ce... Le fameux partage des richesses, il peut pas se faire quand l'essentiel des richesses, il est contrôlé par une ultra petite minorité. Donc le problème, c'est pas le partage des richesses, mais c'est de contrôler, de décider de ce qu'on produit, de qui le produit et dans quel objectif.
Maud, quel regard vous portez sur le débat PSUMP, sur la question de la sécurité, le nombre de caméras de surveillance?
Oui, bah écoutez, voilà, la sécurité est un thème de campagne récurrent, hein, là, au niveau local comme au niveau national. Bon, moi, je suis convaincue que la première insécurité, c'est l'insécurité sociale. Voilà, hein, la première question que les gens se posent, c'est est-ce qu'ils vont garder leur travail? Est-ce qu'ils vont avoir un CDI? Dans combien de temps leur boîte va fermer? Voilà, et s'il y a des licenciements, qui sera touché le premier? Bon, voilà, moi, la sécurité, c'est un thème pour se faire élire. Voilà, sur le sentiment d'insécurité qui peut exister chez certains. Mais voilà, moi, je suis vraiment convaincue que c'est l'insécurité sociale le vrai problème. Et c'est plus de ça que j'ai envie de discuter. Voilà, que des caméras de vidéosurveillance, c'est sûr.
Et c'est extrêmement violent quand vous apprenez le vendredi à 17h que votre mission d'intérim, elle n'est pas reconduite le lundi. Hein, quand vous apprenez que parfois par un communiqué de presse qu'il y a une centaine de suppressions d'emplois dans votre entreprise, ça c'est une sacrée violence.
Et sur un sujet comme le commerce en ville, c'est pareil, c'est pas des thèmes sur lesquels vous allez faire campagne, Eric?
Vous savez, on ne va pas faire campagne sur ce sujet, mais enfin, vous savez, les commerçants, ils ne vivent que parce qu'ils ont une clientèle qui a de l'argent à dépenser.
Ah oui.
Et quand le pouvoir d'achat de la majorité de la population il diminue, ça se traduit mécaniquement par une baisse de fréquentation des commerces et des supermarchés, des petits commerces, etc. Donc, vous savez, tout est lié. Quand vous avez une entreprise qui ferme dans une ville où elle est le principal employeur, dans les mois qui suivent, ce sont des commerçants qui baissent le rideau définitivement. Quand il y a une augmentation de la TVA, comme celle qui a été faite par Hollande au 1er janvier, pour compenser les cadeaux qu'il fait au patronat, beaucoup de commerçants ne peuvent pas répercuter cette augmentation sur les prix, sinon ils perdront leur clientèle. Alors évidemment, certains, les supermarchés, les grandes surfaces répercutent, donc elles raquettent la population, mais les petits commerçants ne répercutent pas et ils se retrouvent en difficulté. Donc on peut promettre vente dès la création de centres commerciaux, de rénovation de centres-villes, etc. Si la majorité de la population s'appauvrit, tout ça, c'est du pipeau.
Alors, on a beaucoup parlé donc des salariés, du chômage, pouvoir d'achat, tout ça. Mais il faut aussi qu'on dise deux mots, sur les retraités. Parce que, on se rappelle les luttes antérieures qui n'ont pas abouti, hein, qui ont fait que les conditions pour accéder à la retraite se sont durcies. Quel est votre regard là-dessus ?
Oui, effectivement, les retraités ont eux aussi vu leur pouvoir d'achat diminuer, entre autres avec une mesure qui a été prise aussi de repousser la revalorisation des pensions d'avril à octobre, voilà, histoire de gagner quelques millions sur le dos des retraités. C'est une catastrophe, hein. Quand on a travaillé toute sa vie, la retraite c'est pas un cadeau, la retraite c'est un dû, la retraite c'est un droit. Et y compris, il n'y a pas de raison que le revenu des gens diminue à la retraite. Hein. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on a moins de besoins une fois à la retraite. Donc moi, je suis pour que les retraités touchent le même salaire, enfin la même pension que les actifs. Et ça veut dire effectivement cesser de rogner sur notre dos, sur tout ce qui concerne les classes populaires, les travailleurs. Là effectivement la politique de Hollande elle a été dans le direct prolongement de la politique de Sarkozy et effectivement il y a eu des luttes qui ont manqué d'intensité, qui ont manqué de conviction, de détermination peut-être pour arriver jusqu'au bout, mais c'est un scandale, hein, c'est de prendre sur le dos des retraités comme ça et de repousser toujours l'âge de la retraite sous prétexte que la population vieillit. La population vieillit, et alors on a fait des progrès scientifiques, médicaux qui permettent de vivre mieux plus longtemps, et ben tant mieux. Et alors, dans le même temps, la population elle a vieilli, certes, mais la productivité elle a énormément augmenté. Et ça, on oublie toujours de le dire. Et du coup, il y a d'autant plus de richesses qui sont produites dans ce pays. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait du profit dégagé en plus ? Voilà. Et ben, avec le profit dégagé, on a largement de quoi payer des retraites et des retraites à 60 ans à taux plein. Il n'y a pas de raison.
Et les premières victimes, Eric, ce sont les femmes aux carrières incomplètes.
C'est les femmes aux carrières incomplètes, absolument. C'est les petites retraites. C'est tous ceux qui ont eu des périodes de chômage au cours de leur carrière. Vous savez, Sarkozy avait mis en place une réforme des retraites qui était un sacré recul. Hollande, il a rajouté une couche en 2013 en reportant encore un petit peu, en rallongeant encore la durée de cotisation nécessaire. Donc à chaque fois, ils invoquent cette prétendue obligation de repousser l'âge des retraites, alors qu'en effet, la seule et unique raison, c'est de réduire les cotisations patronales. Hein, parce que si on maintenait les cotisations patronales sur les retraites, il n'y aurait pas de problème de financement. S'il n'y avait pas 4 millions ou 5 millions de chômeurs dans ce pays, il n'y aurait pas de problème de cotisation. Alors oui, il y a eu des luttes en 2010 contre la réforme Sarkozy, il y en a eu beaucoup moins en 2013 contre la réforme de Hollande, y compris parce que les directions syndicales, elles ont pas fait tout ce qu'il fallait pour les organiser, pour les mener, parce que toute une série d'entre elles se placent dans cette logique qu'on est bien obligé de faire des sacrifices, on est bien obligé de discuter de réformes, alors que c'est absolument faux. Hein, aujourd'hui, il y a une guerre de classe qui est menée. Et ces décisions qui concernent la réforme des retraites, en fait, c'est la mise en musique de la volonté du patronat de ne plus payer. De plus payer pour la sécurité sociale, de ne plus payer pour les retraites, de ne plus payer pour les allocations familiales. Donc, évidemment, s'ils veulent plus payer, alors que c'est rien d'autre que du salaire différé, cet argent, c'est quand même le produit du travail des salariés. C'est pas de l'argent qui est volé, c'est de l'argent qui est directement produit par les travailleurs et qui leur est volé à eux. Alors, c'est ça qui fait qu'en effet, il y a une dégradation. Vous savez, au mois d'août, des milliers de retraités ont reçu leur impôt sur le revenu et ont découvert que, à cause des réformes initiées par Sarkozy et maintenues par Hollande, eh bien, ils se retrouvaient redevables d'un impôt sur le revenu. Beaucoup, c'était quelques dizaines, quelques centaines d'euros, mais ça faisait basculer des milliers de personnes dans une situation de précaire. Voilà.
Je décode pour les auditeurs, c'est le fait que le barème de l'impôt n'a pas été revalorisé du taux de l'inflation, ce qui fait qu'à revenu constant, l'année d'avant, on n'est pas imposable, et puis claque, d'un seul coup, à revenu constant, on devient imposable. Voilà, c'est ce qui a été vécu à juste titre comme un scandale. Ouais. Alors, Maud, comment vous y prenez pour faire votre campagne? J'imagine que vous n'allez pas faire un grand meeting à la salle des fêtes.
On va faire une réunion publique le mercredi...
Le même jour, mais le 19 mars.
Le 19 mars, voilà.
Le 19 mars, c'est un mercredi.
C'est un mercredi
à 18h30, hein, à la maison des syndicats.
Mercredi 19 mars.
Mercredi 19 mars, 18h30, à la maison des syndicats.
Ouais, d'accord. Donc ça sera quasiment votre unique rassemblement de campagne.
Oui. Et puis bon, bien sûr, la campagne s'arrête pas là. Hein.
Oui, non, mais bon, on vous voit fréquemment en ville, sur le marché ou ailleurs. Oui, évidemment.
Voilà, ouais. Et puis auprès des entreprises aussi. Voilà, on va diffuser des tracts auprès des entreprises, être sur les marchés le plus souvent possible.
On discute beaucoup. C'est une campagne militante. C'est une campagne où on essaye de discuter de la situation, de discuter de l'avenir de notre camp, de l'avenir du monde du travail. Hein, qui en prend plein la figure, et de défendre cette idée, cette perspective qu'il faut que le monde du travail relève la tête, hein, et que ces élections, c'est beaucoup de gens aujourd'hui sont tentés de ne pas aller voter.
Et c'est le grand risque, oui.
Ils sont dégoûtés, ils sont écœurés, on les comprend, et ils ont l'impression justifiée que on change les équipes qui sont au pouvoir et puis rien ne change pour nous. Bah nous, on leur dit simplement, profitez du fait qu'on nous donne la parole de temps en temps avec les élections pour l'ouvrir, justement, et pour dire ce que vous pensez, et de le dire de façon non ambiguë. Parce que l'écœurement provoqué par la politique de Hollande au gouvernement, elle renforce l'extrême droite, elle renforce Marine Le Pen, qui a comme seul et unique argument qu'on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais vu au pouvoir, mais qui fondamentalement défend les riches, elle aussi, défend le même système, et ce serait la politique de Hollande et Sarkozy en pire. Alors on dit profiter de ces élections pour que l'opposition, elle vienne du monde ouvrier, que l'opposition, la colère, elle vienne de l'autre bord, sans ambiguïté possible, et en particulier sans redorer le blason à de futurs politiciens qui font aujourd'hui, qui ont un pied dans le gouvernement, un pied en dehors, mais qui préparent à de nouvelles désillusions. Il n'y a pas de sauveur suprême. Les travailleurs, ils pourront compter que sur leur propre force. Alors le bulletin de vote, c'est au moins une occasion de le dire.
Lutte ouvrière a une position par rapport au second tour quelle est votre position?
Non, nous, c'est vraiment le premier tour qui nous intéresse. Hein, c'est là que les gens pourront vraiment s'exprimer.
Vous n'allez pas donner de consigne de vote pour le second quelle est la tradition?
Le seul et unique tour où on peut dire ce qu'on pense clairement, sans tractation, sans mettre ses idées dans sa poche, c'est le premier tour. Après, on ne peut plus rien dire. Donc, utiliser le premier tour, le seul et unique qui compte.
Voilà, qui est un début, un semblant encore de ce qui reste de la démocratie, puisque on peut librement, à condition de faire la liste,
rassembler 39 colistiers,
et puis d'avoir un tout petit peu de sous aussi, parce que mener une campagne,
voilà, financer les bulletins de vote, etc.
Ça coûte, hein, voilà. Bien. Alors, je rappelle que j'étais en compagnie de Maud Lépagneau, qui est donc tête de liste Lutte ouvrière, sous-titre de la liste Faire entendre le camp des travailleurs, à Bourg-en-Bresse, 23 mars, et Éric Lailly, militant de Lutte ouvrière. Et je rappelle le rendez-vous, mercredi
19 mars,
18h30, à la maison des syndicats, pour le rassemblement de Lutte ouvrière. Merci, au revoir.
Merci.
Merci.